Bon mercredi, j'espère que ça va bien. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent aujourd'hui à cette journée un peu plus pluvieuse. Si vous êtes dans la région de Montréal, dépendamment de l'endroit au Québec, ça sera une journée sous les signes de la précipitation. Mais je pense qu'il fait moins froid que dans l'Ouest canadien et François Gagnon pourra nous le confirmer tantôt. Alors, émission bien chargée aujourd'hui avec trois intervenants. François Gagnon qui est à Calgary, en Alberta. Par la suite, Marc-André Dumont viendra nous présenter son analyse du match d'hier entre les Sharks et le Canadien hier au Centre Bell, défaite du tricolore. Et par la suite, on va se rendre au Qatar, où là, il fait pas mal plus chaud qu'ici. Antonin Bessner est là sur place pour la Coupe du monde de soccer. Le Canada va jouer son prochain match demain. Bref, on va en parler avec nos intervenants au cours de la prochaine heure. Salut Martin, comment vas-tu?
Je vais très bien, mon Yann. Écoute, on va se dire la vérité. C'était plate à mort hier. J'ai décidé d'aller au Centre Bell. C'est rare que je fais ça parce que ça hypothèque les heures de sommeil et les heures de hockey. Fait que si je faisais ça, je manquais le début du match Flames-Panthers. Mais je dis, regarde, je vais y aller, ils partent pas longtemps sur la route. My God, que c'était plate. On va en parler. C'était pas un spectacle. Mais sais-tu quoi? On va en parler, mais il faut prendre tout ça avec légèreté parce que le Canadien, souvenez-vous, au début de saison, ça t'a pas gagné. Le Canadien est en reconstruction, apprentissage. Fait que c'est tout ça, là. C'est tout ça qui se passe, là. C'est pas parce qu'on est proche d'une place en série qu'il faut commencer à déchirer sa chemise parce que le Canadien sort pas, performe pas, donne pas l'effort, le gardien fait pas le job, l'avantage numérique est 0 à 6. Bref, faut pas déchirer sa chemise pour ça. Aujourd'hui, salutations, mon Yannick! On va saluer bien du monde, je pense, d'un coup. Parce que si je te dis on va saluer les designers, tu vas dire, ouais, y a pas grand monde qui nous écoute qui sont designers. Mais si tu dis tous les designers, pas juste les designers d'intérieur, les designers de linge, les designers... Tu fais du design, mais visiblement pas toi avec ton décor, là, mais tu fais du design chez vous, t'es salué aujourd'hui.
T'es gentil, j'adore ça. Hey, ben écoute, j'ai fait un travail de designer avec les chandails.
Ouais, soyez là demain. Tu sais que je garde tout dans la vie. J'ai quelque chose par rapport aux salutations puis par rapport à mes décorations en arrière. Là, vu qu'on a trois intervenants, okay. Je ne vais pas prendre le temps de personne, mais soyez là demain à l'ouverture de l'émission. Je veux faire... demain aussi, on a trois.
Parfait. Okay. C'est pas grave. On prendra le temps de le faire. On le fera au début rapidement. Nous aurons les échos de vestiaire et les commentaires de Martin Saint-Louis plus tard au cours de l'émission, puisque c'est actuellement en cours du côté du complexe Bell. Mais de ce pas, rendons-nous où le Canadien va se diriger, possiblement cet après-midi, parce qu'il y a un match demain à Calgary. Il est là au domicile des Flames, François Gagnon, qui a fait un peu de jogging avant le début de l'émission. Salut François, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Petit message aux Canadiens, à Martin Saint-Louis puis à ses joueurs. Bonne idée de vous mettre une tuque, d'avoir des bons gants chauds, puis peut-être des combines longues. Là. Demandez à Pierre Gervais de vous en donner des sèches ou à Patrick, là, qui l'a remplacé. C'est les mauvaises habitudes des 20 dernières années. Mais demandez à Patrick Langlois de rajouter des combines longues, chaudes et sèches, parce que s'il pleut à Montréal, ici, il fait frette. Ça n'a pas de bon sens.
Oui, c'est ce que j'ai lu ce matin.
Ce qui est drôle, c'est qu'il...
C'était un froid polaire là-bas. Là.
Oui, monsieur.
Oui, ce qui est drôle, c'est que tu nous dis ça avec une chemise ouverte, pas de manteau, pas de veston d'habit, rien.
OK, mais là, je suis à l'intérieur du Saddle Dome et puis je suis dans une petite coursive là, qui donne accès à l'aréna, qui est l'amphithéâtre qui est derrière moi. Les Flames vont s'entraîner à 11h heure de Calgary, donc dans une heure ici. Alors, il fait chaud, mais je regarde par la porte là, qui est là. Une des entrées, c'est la sortie nord-est. J'ai pas choisi la bonne, je peux te dire ça. Puis juste à regarder dehors, j'ai froid. Fait que non. Pour le moment, la chemise, c'est correct, mais dehors, il n'y en est pas question.
Écoute, notre réalisatrice vient de faire une petite recherche, François, puis fait moins 17 au mercure. Donc, avec le froid ressenti et le vent, ça doit être pas mal plus froid que ça.
Oui, je peux vous le garantir. Puis en plus, il y a une petite neige. C'est un peu moins pire qu'hier, mais le vent ici, là, on le sait, on est au pied des Rocheuses, mais c'est des grandes plaines. Alors, quand le vent se lève, il arrive de loin. Puis en ce moment, je peux vous dire une chose, il arrive pas du sud. Il arrive du franc nord parce que c'est loin d'être évident. Alors, la vie est donnée aux collègues de Montréal qui s'en viennent à Calgary. D'ailleurs, je l'ai dit à Luc Gélina qui devrait prendre l'avion dans une heure ou deux. Mais s'il y en a qui nous écoutent et qui sont en train de terminer leur valise, là, rajoutez des combines longues. Comment on appelait ça quand j'étais des panman ou quelque chose de même? Là, mais en tout cas, peu importe, je ne veux pas faire de publicité pour personne.
Ah ouais. Les espèces de combines longues. J'haïssais ça, mettre ça quand on était jeune. Tu sais, quand notre maman nous envoyait à l'école, là, puis je pense qu'on fait moins ça aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. On attendait l'autobus au coin. Bon, on va lâcher la météo un peu. On va parler des Flames.
Oh ouais,
parce qu'il y avait, de la chaleur un peu dans le building hier. Mais avant de parler du match et de la performance, parlons de Jonathan Huberdeau que tu as rencontré avant le match, avec qui tu as discuté. Je lisais ton texte d'ailleurs sur le RDS.ca. Puis il disait là, qu'il y a eu besoin de temps pour s'acclimater. Là. C'était pas facile. Tout son changement d'environnement là, quand il est arrivé à Calgary.
Non, et puis il n'y a pas juste le changement d'environnement physique, là, partir de la Floride, se retrouver à Calgary, qui est une très belle ville, soit dit en passant. Là. C'est un endroit où il fait bon vivre. D'ailleurs, il est déjà installé dans une nouvelle maison. Tout va bien de ce côté-là. Mais arriver dans une nouvelle formation, des nouveaux coéquipiers, des nouveaux compagnons de trio, un nouveau système de jeu, un nouvel entraîneur-chef qui n'est pas évident, Daryl Sutter, on le sait, c'est un dur de dur qui n'a pas eu peur de critiquer Jonathan Huberdeau en disant que... Mais Huberdeau me l'a dit hier. Il n'avait pas besoin de Sutter et de lui dire qu'il ne jouait pas bien. Il n'avait pas besoin de mes collègues journalistes de Calgary qui disaient « Oups, le contrat de 84 millions pour 8 ans, il commence à donner des signes de faiblesse. » Il savait lui-même. Et il l'a admis candidement hier. J'étais une seconde à deux secondes en retard sur tous les jeux. Ça se passait pas assez vite. J'étais pas habitué. Il dit « Quand tu joues, et puis c'est ce qu'il me disait hier, avec Sam Bennett et Anthony Duclair, c'est des gars qui sont comme des fusées sur la glace. Le jeu s'ouvre rapidement. » Ici, à Calgary, puis je dirais dans l'Ouest en général, c'est beaucoup plus systématique. Alors, tu dois suivre les patrons de jeu. Tu dois respecter les gars avec qui tu joues. Tyler Toffoli, il était pas vite à Montréal. Il n'est pas plus vite à Calgary. Alors, à ce niveau-là, Huberdeau a dû s'ajuster. Mais hier matin, il me disait, c'est-tu quoi? Je sens que les choses s'en viennent. Je sens que ça va débloquer. Hier soir, un but chanceux, mais un but pareil, et une passe, première étoile. Il a complètement éclipsé Matthew Tkachuk et les Panthers de la Floride parce que les Flames ont gagné 6-2 et Huberdeau a obtenu la première étoile du match d'hier.
Avant qu'on poursuive avec nos sujets, des salutations sur la page On Jase. Alain Jean-Paul, première fois je vois le nom, salutations. Lui, il veut parler de Harbour qui a été retiré de l'alignement, ce que selon lui, c'était une erreur. Normand Picard, salutations. Claude Marion, Luc Payan qui parle de Huberdeau. Puis bien avoir du mal à se mettre en marche, passer de la Floride à Calgary, ça peut, ça peut mettre des bâtons dans les roues. Au niveau de la température,
il
y a des gens qui t'ont fait, il y a des gens qui t'ont fait des recherches de température, François. Malheureusement, il y a beaucoup de messages qui sont rentrés. Ça a monté vite. Il y a quelqu'un qui disait qu'en fin de semaine, il annonçait... Ah oui, Normand Picard, en fin de semaine, ça va être moins 31 à Calgary. Fait que j'espère, François, que tu vas partir avant le week-end.
Je vais être revenu à Montréal. Il peut faire aussi froid qu'il fera.
OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Revenons à nos moutons, puis même avant d'y revenir, dis-moi donc, ça a été comment, parce que c'était très attendu le retour de Tkachuk, la différence avec Huberdeau quand il revenait en Floride, Huberdeau ne voulait pas partir de la Floride, Tkachuk, lui, c'est lui qui a demandé la transaction, donc on lui a montré un vidéo hommage, je pense que les gens étaient polis, mais après ça, on lui a réservé un chien de machine, comme on dit.
Après puis avant. Je peux dire, hier matin, les Panthers qui avaient joué la veille à Edmonton n'ont pas patiné. Et les Flames, qui, eux, revenaient d'un long voyage de 6 matchs sur la côte Est, n'ont pas patiné non plus. Alors, les discussions dans la salle de presse étaient à l'effet, est-ce que Tkachuk va être hué ou non? Puis, presque unanimement, les journalistes disaient, ils peuvent pas le huer. Il a quand même donné 6 ans et 6 bonnes années aux Flames de Calgary. Il était immensément impliqué dans la communauté. Et puis, il a donné 1 an à Brad Treliving et à l'état-major des Flames pour entreprendre des négociations qui sont jamais venues, d'où le départ vers la Floride et l'arrivée ici de Jonathan Huberdeau et de Mackenzie Weegar, le défenseur. Fait que tout le monde disait, il sera pas hué. Écoute bien, ça a pris 2 secondes d'écart, mise en jeu initiale, tu as Huberdeau et Tkachuk qui sont côte à côte. Tkachuk se débat, hérite de la rondelle, il n'a pas touché longtemps, ça a pris une fraction de seconde et les huées ont commencé. Des huées nourries du début à la fin du match pour toutes les raisons. Quand il touchait à la rondelle, quand il se préparait à faire un tir, quand il essayait de faire une passe, quand il est tombé, quand il a réclamé une pénalité. Mais première pause publicitaire de la première période, l'hommage qui a été rendu à l'écran géant qui est juste ici derrière moi, là, tu as eu une très, très belle ovation. Mais Tkachuk est resté sur la glace après ça. Et aussitôt qu'il a touché à la rondelle dès la reprise du jeu, il a été hué copieusement une fois encore. Et là, tout le monde est parti à rire. Alors, ça donne une idée. Il y a du respect là-dedans et Tkachuk l'a dit. Il dit, écoute, je savais pas trop à quoi m'en tenir. Ça m'intimide pas, les huées. Il faut croire que c'est un signe de respect parce que ça se voit partout dans la Ligue nationale. On l'a vu à Montréal pour bien des joueurs, des anciens Canadiens qui sont revenus au Centre Bell. Et puis, ce qui est vrai à Montréal l'est ailleurs aussi. Mais ce que Tkachuk a dit hier, et ça, j'ai aimé ça, il a dit, tu sais, j'avais hâte de revenir à Calgary, c'est sûr, mais j'avais pas besoin de ce match-là pour fermer la porte, pour tourner la page. Il dit, dès que je suis parti l'été dernier, la porte était fermée, la page était tournée, et puis il était juste en maudit de sa mauvaise performance et du très mauvais début de match de son équipe, parce que hier soir, les Panthers en ont mangé une sincère. On remarque que Dan Vladar a fait du bon travail en première période, beaucoup plus que Sergei Bobrovsky. Mais dans l'ensemble, les Panthers n'ont pas été à la hauteur des Flames et Tkachuk n'a pas été à la hauteur de Jonathan Huberdeau.
François,
Yann,
tu
veux juste
en
ajouter quelque chose?
Oui, vas-y.
Je sais que je t'ai dit oui pour que tu y ailles, mais je veux juste ajouter quelque chose. Tu sais que je n'ai pas un grand amour pour Jacob Markstrom. Hier, c'était certainement la seule fois que je voulais le voir parce que son équipement rétro, masque et jambière, était tout simplement spectaculaire, mais trop poche pour être dans le filet. On a vu l'équipement de Vladar. Vas-y.
Écoute, on s'est souvent coltaillé un petit peu par rapport à Markstrom, qui est considéré comme un bon gardien dans la Ligue nationale. Pas dans le top 5, pas un gardien d'élite, mais un très bon. Et puis ici, là, à Calgary, je te dirais que d'un commun accord, les collègues considèrent que sa défaite le printemps dernier contre les Oilers d'Edmonton, souviens-toi, là, ça avait commencé une grosse victoire des Flames dans le match numéro 1, puis après ça, Markstrom n'a pas été capable de faire le travail et on dirait qu'il traîne ça sur ses jambières depuis le début de la saison. Il n'y a pas une bonne moyenne, il n'y a pas une efficacité intéressante, là, qui est à 89 %, mais au-delà de ces statistiques-là, quand tu regardes les faits saillants des Flames, puis je les regarde souvent parce que c'est le club que j'ai choisi dans mon pool de hockey, puis je trouve qu'il ne me donne pas assez de victoires, mais trop souvent, on voit un ou des mauvais buts accordés par Markstrom. Il fait encore des bons arrêts, mais il donne des sapins, des fois, qui complètement dégonflent son équipe.
Oui, au mauvais moment.
Au début, tantôt, tu nous as parlé un petit peu, très brièvement, de Tyler Toffoli. J'ai envie que tu nous en parles un petit peu. Tu l'as vu jouer hier. Moi, je l'ai aimé à Montréal. Là, il est à Calgary. Évidemment, on le voit moins souvent parce qu'on a moins l'occasion de regarder des matchs des Flames, à moins de s'appeler Martin, là, qui regarde tous les matchs. Mais de mon côté, ça fait un petit bout de temps, je ne l'ai pas vu évoluer. Lui as-tu parlé? L'as-tu rencontré? As-tu eu l'occasion d'échanger avec lui un peu? Puis comment tu as trouvé son match hier?
J'ai pas échangé avec lui hier. Il était en mêlée de presse, là, en scrum, comme on dit dans le jargon, avec d'autres collègues de Calgary. Puis moi, je consacrais tout mon temps à Jonathan Huberdeau. Hier, il a marqué. Il a marqué un but à la Tyler Toffoli, c'est-à-dire qu'on connaît tous la qualité de son tir. Mais je te dirais qu'il se retrouve dans une position qui n'est peut-être pas favorable pour lui. Parce qu'on a parlé beaucoup de Matthew Tkachuk qui est parti, mais il ne faut pas oublier que Johnny Gaudreau est parti aussi. Alors ça, c'était les deux tiers d'un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Il reste Elias Lindholm, qui est au centre du premier trio. Jonathan Huberdeau est à gauche. Et Toffoli est appelé à remplacer Tkachuk. Écoute, c'est un rôle ingrat, là, parce que Toffoli n'a pas la hargne de Tkachuk, n'a pas sa vitesse non plus. Alors, c'est un gars qui peut marquer des buts et qui le fait, mais c'est un gars qui, pour moi, devrait être en deuxième vague d'attaque, pas au sein du premier trio. Il devrait être là pour compléter. Il complète Huberdeau et Lindholm. D'ailleurs, Huberdeau est un fin passeur, 85 mentions d'aide l'an dernier en Floride. C'est un record pour un ailier gauche. Et il aime ça, trouver des cibles intéressantes comme ça. Alors, Toffoli pourrait être le bon complément pour Huberdeau à court terme. Mais je suis convaincu que Brad Treliving, quand il regarde ça, il se dit, il me manque un élément au sein de mon premier trio pour m'assurer d'avoir une force de frappe sur les trois fronts, à gauche, au centre et à droite, de façon plus régulière. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça donnera pour lui. Mais pour l'instant, il s'acquitte bien de sa tâche. quand tu joues au sein du premier trio et que tu es du premier avantage numérique, tu dois produire. Parlez-en aux Canadiens qui ne l'ont pas fait hier. Alors, à ce niveau-là, sa production est intéressante, mais il me semble qu'au sein de ce premier trio-là qui a été si fort l'an dernier, ça prendrait quelqu'un qui serait une coche supérieure à Toffoli.
François, je te dirais que tu as pogné un bien meilleur match, même si c'était pas terrible, tu as pogné un bien meilleur match que le Canadien contre les Sharks hier. C'était pénible à regarder. On va en parler dans deux minutes avec Marc-André Dumont, qui est déjà installé. Mais juste avant de te quitter, parce que le Canadien va jouer contre les Flames jeudi, c'est une des raisons pourquoi tu es là-bas. Oui, d'aller voir Jonathan Huberdeau, mais tu es allé plus tôt. Bon, nous autres, on le sait, c'était pour éviter le froid, mais tu es allé plus tôt pour mettre la table pour ce prochain match. À quoi les partisans du Canadien peuvent s'attendre? Quelle est la force des Flames? En quoi les Flames vont donner du fil à retordre aux Canadiens? Parce que là, les Canadiens vont commencer à jouer, je ne veux pas faire de peine aux partisans, des vraies équipes. Le Canadien a eu un calendrier quand même assez facile et malgré tout, se sont tenus à 500. Fait que là, ça va commencer à être difficile. Là, ceux qui avaient peur pour que le Canadien ne soit pas dans le top 10 du repêchage, là, retenez pas votre souffle, ça s'en vient.
Écoute, le Canadien va affronter un club qui est en manque de victoire. Et ça, c'est Daryl Sutter qui me l'a dit hier à réponse à une de mes questions. Puis je disais, tu as des nouveaux joueurs, tu t'accordes combien de temps pour trouver les bonnes recettes, les bonnes combinaisons. Il dit, c'est sûr que c'est un processus qui prend du temps, mais on est rendu au quart de la saison, puis on joue du hockey pour 500. En fait, il jouait pour 500 avant le match d'hier. Il dit, là, on doit gagner et gagner plus régulièrement. On doit viser le 600-625, suivre le rythme imposé par Vegas, par Seattle, qui est très surprenant, par Winnipeg, qui est très surprenant aussi, qui a gagné encore. Alors, il faut qu'on rattrape ces équipes-là. Donc, même si c'est le match 22-23 pour les Flames, le Canadien doit s'attendre à voir un club qui est plus désespéré déjà parce qu'il se rend compte qu'il y a un manque à gagner. Les Flames veulent faire les séries. Les Flames ne veulent pas gagner la loterie. C'est un club qui s'est nettement amélioré cet été. Brad Treliving, on lui avait donné la Coupe Stanley estivale avec Pierre Dorion pour les plus gros travaux estivaux pour rebâtir son club. Mais sur la glace, les résultats ne sont pas encore là. Alors, le Canadien devra s'attendre à avoir un club qui va trimer fort, un club qui est systématique, mais un club qui a des lacunes et qui ne peut pas se permettre de jouer, je te dirais, à 75 % de ses capacités, sinon il devient vulnérable. Je ne sais pas si ce sera Markstrom ou Vladar demain dans le filet. De la façon dont Vladar a gardé hier, si je m'appelle Daryl Sutter, je veux y aller avec lui parce que si j'ai besoin de victoire, le temps n'est pas de soulager un peu les susceptibilités de Markstrom. Alors, j'irai avec mon gardien qui est gagnant. Alors, je reviendrai avec Vladar, mais ce sera intéressant à voir. Mais le Canadien va avoir de l'opposition hier. S'il pensait que ce serait demain, s'il pensait qu'hier, ça allait être facile contre San Jose, puis il y a eu une méchante surprise, s'il pense que ça va être facile à Calgary parce qu'il y a toujours beaucoup de partisans du Canadien dans les gradins, bien, il pourrait se réveiller avec une autre défaite sur les bras. Mais comme tu as dit tantôt, et je suis d'accord, c'est des défaites qu'on anticipait de toute façon. Alors, au-delà du résultat, c'est de voir comment Suzuki, Caulfield, Goulet vont se débrouiller face à une équipe qui devrait normalement être pas mal supérieure au tricolore.
François, un gros merci. Très intéressant. On a bien hâte au match de demain. Puis, oublie pas ta petite laine, mais que tu sortes de l'aréna.
Je vais mettre ma tuque puis mes gants avant de sortir. C'est promis. Salut tout le monde.
C'est sûr. Salut François, on se reparle la semaine prochaine. François Gagnon qui est en direct de Calgary. Avant d'aller retrouver Marc-André Dumont, si tu me le permets, Martin, rapidement, salutations sur Facebook à Pierre Lalonde, Sylvain Lemay, Martin Giroux, Mario Millette, Pascal Le Poirier. YouTube, Louis Ladimir, Jonathan Pratt, André Généreux, Éric Desharnais. Beaucoup de commentaires sur le match d'hier. Dominique Bourassa qui parle de Jake Allen. Jean Lavoie également qui, lui, dit pourquoi nous ne sommes pas capables depuis plusieurs années d'avoir un bon avantage numérique. Mario Millette. Il y en a plein. Puis j'ai une question qui n'est pas dans les sujets à Marc-André, mais je vais vous la poser aux deux parce qu'elle revient souvent. Puis là, ben, je viens de l'accrocher d'un auditeur. Je vais vous la poser dès le départ. Mais avant, accueillons notre ami Marc-André Dumont, tableau à la main, qui est prêt pour jaser avec nous. Salut Marc-André, comment ça va?
Salut messieurs, ça va super bien, vous autres?
T'as vraiment pas beaucoup de pression, mon Marc-André, parce que peu importe ce que tu vas faire sur le tableau, ce sera beaucoup plus intéressant que le match lui-même hier qui était...
Ouais, ça c'est sûr.
Hey,
ça,
Martin,
c'est sûr. Écoute,
Martin,
une question.
Tiens-toi pas, dis-nous vraiment ce que tu penses.
Honnêtement, c'était pénible à regarder. Je vais vous le dire, là, c'était pénible à regarder. Je pense que j'ai même eu plus de plaisir à observer les Sharks, que j'aime ça qu'ils aient enlevé les culottes noires, les gants noirs, les casques noirs. Je suis content qu'ils aient mis ça tout turquoise, que je suis rendu là. J'avais dit avant le match, par contre, j'ai dit, les gens qui pensent que les Canadiens, ça va être un walk in the park, faites attention, les Sharks sont des bons vétérans, une ligne de centre intéressante avec Hertl, Couture, et le vétéran, il a même bloqué un lancé, son nom m'échappe, là. C'est pas Rick Hall, là, mais c'est dans ce... Bonino, qui est là comme troisième poste de centre. Carlson, offensivement, sur l'avantage numérique. Vlasic, on a vu leur désavantage numérique qui a été efficace encore une fois. Fait que j'ai trouvé quasiment des choses plus intéressantes à regarder du côté des Sharks que du côté du Canadien. Fait que je vais rester, tu vois, c'est encore poli. T'es un gars poli, madame.
Ouais, t'es correct. Tu restes poli, j'aime ça. Les gens aussi restent polis, mais écoute, ça fait une couple de jours que je vois souvent revenir ces questions-là, puis on n'a comme pas parlé, puis là, j'ai envie de vous la poser. Là, c'est Michel Falardeau qui demande, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on garde Dadonov à Montréal? Lui, visiblement, il ne l'aime pas, mais il y a plusieurs amateurs qui ne l'aiment pas non plus. Oui, bien, c'est ça. On est tous dans la même position. Mais Marc-André, pourquoi Dadonov?
Ben, c'est une excellente question de Michel. Je vais tenter une réponse, mais je vais avertir Michel tout de suite. Je ne sais pas exactement la raison précise, mais il peut avoir un paquet de raisons. Par exemple, si c'est un joueur que le Canadien essaie de magasiner, essaie de transférer à une autre équipe, donc on tente par tous les moyens possibles, toutes les options possibles de créer une étincelle avec lui, de trouver une combinaison, de trouver un adversaire qui lui convient, où est-ce qu'il va produire, où est-ce qu'il va générer des chances de marquer, où est-ce qu'il va peut-être tomber dans une zone de performance. Puis ces joueurs-là, souvent, quand ils tombent dans une zone là, que ça va bien, là, ils partent sur une vague, ça peut durer plusieurs matchs consécutifs. Fait que est-ce qu'on tente de trouver ça, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on le maintient dans l'alignement. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans son jeu, puis Michel fait bien de poser la question.
Mais Marc-André, tu le sais, toi, je veux dire, t'as été GM dans le junior, là. Les gars, vous connaissez, là, même si tu mets du papier d'emballage, une boucle, un chou, du papier brillant... tu chantes une chanson autour de Dadonov, il ne vaudra pas plus cher. Là. Les GM dans la Ligue, là, c'est
pas fini, plus ça, Sam Pollock. Là.
Ils l'ont vu aller en Floride, ils l'ont vu à Vegas, ils l'ont vu à Ottawa. Je veux dire, rien que le Canadien peut faire pour rehausser la valeur de ce gars-là, il vaut ça.
Oui, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle toutes les équipes que tu viens de me nommer, toutes les autres équipes sont situées, mais ces situations-là peuvent changer, Martin. Tu peux avoir deux blessés consécutifs, tu peux avoir une léthargie dans ton avantage numérique. Alors, c'est là que la boucle, l'emballage cadeau, le ruban doré, et même tu ajoutes un gâteau à crème à glace avec son nom écrit dessus.
J'adore le gâteau à la crème en glace, comme mes parents disaient. Un cadeau à crème en glace.
C'est ça. Alors, faut mettre une boucle, bien entendu. Mais tu as raison, puis dans le junior, c'était la même chose, Martin. On se disait, le joueur, le DG m'appelait, par exemple, là, il me disait, bon, tu sais, tel joueur est disponible, on veut juste un choix de repêchage, le milieu du repêchage. Ça veut dire que c'est un joueur qu'on veut pas garder, là, tu sais, puis qu'on veut bouger. On le connaissait, mes gars le connaissaient, on l'avait vu jouer. Sauf qu'à un moment donné, tu peux tomber dans une phase, par exemple dans le junior de reconstruction, de transition, tu peux tomber dans une phase où tu as beaucoup de blessés. Tu peux tomber dans une phase où tu as besoin d'amener du nouveau, d'amener un élément dans ton équipe, un peu comme le Mousset d'Halifax vient de faire avec l'acquisition de Josh Lawrence de l'Armada de Blainville-Boisbriand lundi. Halifax est deuxième dans la conférence de l'Est derrière Québec, qui est au premier rang puis une super puissance cette année. Et ils ont une bonne saison, mais depuis quelques semaines, c'était un petit peu plus ardu. Tu sais, gagne, perd. Et là, ben le DG Cam Russell est allé chercher Josh Lawrence. Tu vas me dire, Josh Lawrence, c'est une grosse pointure, c'est sûr. Sauf que dans la Ligue nationale, des fois, un Dadonov pourrait peut-être être une solution court terme ou une solution pour amener une étincelle. On le souhaite de toute façon.
Vas-y, Yann.
Un commentaire pour terminer le dossier Dadonov qui m'a fait sourire. Donna Giroux sur Facebook dit « Dadonov, c'est le seul joueur qui prend de la valeur en restant dans les estrades. » Parole d'un sage. OK, sortons le tableau. Marc-André, tu nous as... Ouais, je la trouvais bonne, je vais la lire. Tu nous as préparé des choses, entre autres, hier, sur le premier but des Sharks.
Oui, le premier but des Sharks en début de match. Je voulais revenir sur cette séquence-là parce qu'on en a parlé dans les dernières semaines que l'échec arrière puis l'engagement des attaquants du Canadien parfois faisait défaut sur l'échec arrière. Et hier, quand j'ai vu la séquence en direct... Je me suis dit, OK, ça c'est intéressant. J'ai vu autour du filet. Et là, évidemment, ce matin, en sortant la séquence vidéo, ben j'ai reculé pour voir d'où ça partait. Donc, c'est parti de la zone offensive. Je vais prendre mon tableau pour vous indiquer un petit peu comment ça a démarré. Alors, quand on regarde ici, dans la partie offensive, donc en zone offensive, ici, on a Caulfield avec Suzuki, puis avec Dach. Donc, on est en début de match. C'est le 22, donc Caulfield qui a la rondelle. Il va prendre un tir avec un angle un peu restreint, mais dans un début de match à 0-0 en zone offensive, quand tout le monde est frais et dispo, ton premier trio prend un tir de là. Moi, j'ai pas vraiment un gros problème avec ça. Puis, la difficulté, évidemment, c'est Nick Suzuki puis Dach qui sont en bas de la ligne des buts, donc ils sont très loin de notre filet, du filet défensif. Et là, bien évidemment, il y a un lancer, il y a une perte de rondelle et l'adversaire effectue une sortie de zone. Et ceux qui vont retourner pour voir la séquence ou ceux qui s'en rappellent de la séquence, j'ai beaucoup aimé comment les trois jeunes attaquants sont revenus avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de vitesse, d'entrain, d'engagement, jusqu'à leur ligne bleue. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voyait il y a quelques semaines. Donc, comme entraîneur, tu te dis, bon, ben ça, c'est un très, très bon point de départ. Tu sais, visiblement, les intentions étaient excellentes. Et là, à la ligne bleue, alors, on s'est retrouvé une situation de 3 contre 5. Donc, les Sharks, c'était 3. Okay, puis c'est la bonne couleur des Sharks, ça donne. Alors, les 3 en vert. Et on a 5 joueurs du Canadien. OK? Et Vincent Danfos en a parlé durant l'entraque hier à RDS au match entre la première et la deuxième. Et il parlait de Caden Goulet, le 21, qui était hors position, c'est-à-dire hors l'aile. Donc, c'est un gaucher qui jouait à droite. Et ça, c'est pas évident pour des jeunes défenseurs. Et là, ben, il s'est fait prendre un petit peu. Et le joueur des Sharks a réussi à transporter la rondelle en arrière du filet. Alors, sur un rush against, donc une attaque contre, on veut idéalement jamais donner l'arrière du filet parce que ça oblige tout le monde à tourner le dos momentanément à l'enclave parce que tu suis la rondelle. Le gardien de but est obligé de se déplacer. Il a peut-être anticipé un tir du côté rapproché ici, donc il s'est positionné pour un tir. Là, finalement, le joueur s'en va en arrière du filet. Donc, on veut éviter ça. Le terme souvent utilisé, en tout cas moi j'utilisais, c'était « pinch him off ». Pinch off the forward en arrière du filet. Donc, on veut l'empêcher vraiment d'accéder à cette zone-là. Mais là, Caden Goulet a été débordé. Donc, ce qu'on s'est retrouvé comme situation, c'est que lui a fait le tour du filet. Il est revenu ici. Et le joueur, je vais juste prendre mes feuilles pour être sûr là, de bien dessiner ça. Donc, le joueur ici...
Je vais
ici,
te dire, il a fait un wrap-around, puis Allen est arrivé, puis il a fait le premier arrêt, sauf que ça n'a pas où était le retour.
Exactement. Puis au moment où est-ce que le retour est ici, il est pris par ce joueur-là ici. Donc, le joueur ici va prendre le retour. OK, le 44, Edmundston, est là, est au filet. Le 21 est ici. Kirby Dach est rendu ici. Puis Nick Suzuki tourne. Et Cole Caulfield se dirige vers la ligne bleue. Alors... C'est un peu ça le problème, c'est qu'on appelle ça un peel-off, c'est-à-dire que les joueurs, les attaquants sont revenus dans l'enclave, très bonnes intentions, mais au lieu d'arrêter, de stopper dans l'enclave, ils ont tourné. Alors, c'est devenu un 2 contre 1 contre Edmundston. Fait que j'efface tout ça. Donc, la situation, on avait le porteur de la rondelle qui était à l'embouchure du filet, le joueur qui a pris le retour, le 44 ici. On avait Caden Goulet, Kirby Dach qui patine par là-bas. Cole Caulfield qui anticipait qu'on récupérait la rondelle et Nick Suzuki a tourné à l'extérieur de l'enclave. Donc, c'est devenu un 2 contre 1. Alors, c'est ça la difficulté. C'est simple à corriger. C'est pas une grosse erreur là, majeure. Puis, ce que j'aime, c'est les intentions étaient là. On avait un surnombre à notre ligne.
Bon, Marc-André, pour les gens de la télé qui viennent de se joindre à nous, Marc-André nous montrait le jeu sur le premier but et il était gentil, Marc-André, dans sa description parce qu'il parlait des intentions des jeunes joueurs du Canadien, le trio de Dak, Suzuki et Caulfield. Les intentions étaient bonnes parce qu'on est revenu suffisamment profondément. Sauf que le résultat est que personne n'a entendu, puis tout le monde est revenu. Sur le jeu, bon, c'est Barabanov qui, je ne sais pas si j'ai assez de R ou puis assez de A, là, mais Barabanov qui fait le tour du filet. La rondelle est arrêtée sur le wrap-around. Erreur, si vous voulez parler du gardien but, parce que moi, c'est ce qui m'a écœuré un peu sur le but. J'ai des collègues, tu sais, tout de suite, tout le monde a un lancé, un but sur Allen. OK, je comprends. Fait que là, si on veut parler du gardien, c'est sûr que quand il a barré patin en pensant que Barabanov allait lancer, il va être en retard pour faire le tour. Il aurait fallu qu'il garde son élan, tu sais, reculer au poteau. Puis une fois que Barabanov fait le tour, il continue sur la même élan. Ça arrivait plus rapidement, il n'aurait pas perdu la rondelle de vue. Edmundson, si tu ne prends pas la rondelle, prends le bâton du gars qui est avec toi, c'est-à-dire le gars qui a marqué le but sur cette séquence-là, Marc-André, qui est Nieto. Mais les deux kids, ils ont beau prendre une bonne intention, puis je ne parle pas de Doc là-dedans. Mais Caulfield, Suzuki, je peux te remontrer le premier but dans les deux derniers matchs. Puis Suzuki l'a parlé hier. Il dit, ça arrive souvent que c'est notre trio au début de match qui se fait prendre. Puis ça arrive souvent, là, puis je n'avais parlé sur l'émission, là, les gars partent, là, puis ils retournent. On n'a pas rondelle encore, puis ils repartent. Je ne veux pas taper sur le clou. Vous appelez ça peel-off? Bon, moi, j'appelle ça des M de McDonald's, parce qu'ils s'en vont, tu sais, puis ça fait M de McDonald's. Mais le meilleur qui fait ça, puis qui ne fait jamais le M de McDonald's, puis qui est tout le temps arrêté, puis pourtant, il en fait des points, c'est Patrice Bergeron. Patrice Bergeron arrête tout le temps devant son filet pour venir aider, prendre une lecture, voir qu'est-ce qui s'en vient. Et ça, là, Martin Saint-Louis dit, moi, je ne corrige pas les erreurs, je corrige les tendances. Tendance, j'espère que, tu sais, on est au courant.
Ben, moi, quand je parlais des intentions, là, c'était à partir d'ici, okay, de là jusqu'à la ligne bleue, OK? Pour moi, c'est nouveau, OK? Parce que l'engagement des trois jeunes attaquants du Canadien, qui ont 23 ans et moins, si je ne me trompe pas, donc... l'intention à partir de la ligne bleue, puis quand on regarde la séquence, j'ai bien regardé ce matin à plusieurs reprises, parce que hier, c'était en direct, fait que je peux pas reculer nécessairement. Et les jambes bougeaient, il y avait beaucoup de vigueur. Donc ça, c'est déjà un point de départ qui est vraiment important. Le reste, c'est juste une question de tu sais, d'enseigner à arrêter dans l'enclave pour que le surnombre se poursuive. Puis tu sais, tu as mentionné tout l'effet domino des erreurs, tu as raison. Tu sais, l'effet domino des erreurs, ça, exactement. Tu l'as. C'est exactement mon tableau. C'est exactement ça. Dans le bas de l'écran, c'est Nick Suzuki.
On voit que
Dak
a continué puis il tourne. Exact. Ouais. Suzuki tourne. Caulfield est prêt à partir. Puis c'est Edmundson qui n'a pas son gars, là.
Oui, mais Edmundson, c'est le seul qui est là. Tu sais, t'as Kirby Dak qui est hors position complètement. Il est dans le coin de la patinoire. Là. Il se dirige vers le coin. Il tourne le dos au filet. Nous, Suzuki a le dos au filet. Puis t'as aussi Caulfield. Caulfield qui. Là, tu sais, ses patins, regarde, ses orteils pointent vers la ligne bleue. Donc, tu sais, c'est vraiment là l'erreur qui s'est faite. Mais je te le dis d'un point de vue d'entraîneur, c'est que ça, quand tu utilises cette séquence-là et t'expliques à ton équipe, c'est là qu'il faut arrêter. Puis sur l'échec arrière, tu sais, il faut finir la route de l'échec arrière. Puis la route, bien, c'est devant le filet, c'est l'enclave. Et donc, si jamais ton défenseur se fait déborder et que tu donnes l'arrière du filet, comme je vous disais tout à l'heure, tu sais, l'arrière du filet, tu ne veux jamais donner ça en entrée de zone. Mais si jamais tu donnes l'arrière du filet, c'est là que cinq gars dans l'enclave vont forcer quoi? Une passe à la ligne bleue. Et c'est peut-être la passe la moins dangereuse sur cette séquence-là versus un tourniquet, un wrap-around ou une passe dans l'enclave à un joueur qui prend un tir sur réception qui est... pratiquement impossible pour le gardien de but là, de faire l'arrêt là-dessus. En tout cas, c'est un arrêt clé si jamais c'est réalisé. Donc, c'est un peu ça que je voulais montrer ce matin là, pour le premier but des Sharks hier.
Tu avais une autre situation également que tu voulais nous expliquer au tableau, Marc-André, concernant oui. Défenseur du Canadien.
Oui, absolument. Alors, on se rappelle Martin Saint-Louis qui avait, lors d'un entraînement, il glissait pour montrer en désavantage numérique comment bloquer un joueur qui rentre au filet. Alors, bien entendu, ça a fonctionné. On l'a vu plusieurs fois dans les dernières semaines, les derniers mois, depuis le début de la saison, en fait. Et c'est une tactique qui fonctionne. Le défenseur qui fait 6 pieds 2, ajoutons 2 ou 3 pieds de son bras, ajoutons un 6 pieds ou à peu près 6 pieds de son bâton, Donc, il couvre beaucoup de superficie sur la patinoire. Par contre, il sort du jeu. Donc, il est plus dans le jeu sur un retour de lancer, sur une passe qui passera à travers lui, par-dessus lui, en dessous de lui, peu importe. Donc, il est plus dans le jeu. Donc, en désavantage numérique, quand tu perds un joueur, évidemment, tu tombes à trois. Mais c'est une tactique qui a bien fonctionné. Alors, hier, ce que les Sharks ont fait, c'est que on voit ici le porteur à la rondelle. OK? Donc, le porteur à la rondelle ici, je vais ramener un peu mon tableau, c'est ça. Donc, le porteur, il a attaqué. Et là, il a fait une passe. Mais là, regardez le joueur sur la ligne des buts, c'est un gaucher. OK? Donc, son bâton, en théorie, est ici. OK? Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de rester ici, il s'est positionné en bas de la ligne des buts. OK? Donc, en étant en bas de la ligne des buts, il n'est plus une menace de rentrer au filet. Tu sais, d'attaquer le short side. Tu sais, côté rapproché, là, d'essayer de rentrer. En anglais, on dit stuff the puck, là, tu sais. Essayer de pousser la rondelle à travers le gardien ou à côté du gardien entre le poteau et le gardien de but, la jambière. Donc, là, il y a eu une passe. OK? Donc, lui n'est pas une menace pour lancer. Là, le défenseur qui couvrait un peu le joueur du milieu ici s'est positionné sur la glace comme ça. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que lui rentre au filet. Donc, bien entendu, c'est Josh Anderson qui a tenté ici de le couvrir, mais ce joueur-là ici a transporté la rondelle. Et là, pendant ce temps-là, lui est rentré ici, côté rapproché, reçoit la rondelle, prend un tir, il n'est pas couvert. Pourquoi il n'est pas couvert? Parce que lui est en train de revenir. Lui, bien, il est un peu responsable, ce gars-là. Et le joueur, Josh Anderson, s'est dit, faut que je couvre ce gars-là, sinon il va recevoir la passe. Donc, ça a créé un petit peu comme un 3 contre 1 ou un 3 contre 2 dans cette zone-là ici avec le porteur. Donc, là, ce qui va arriver, c'est que les autres équipes, les adversaires du Canadien, Calgary par exemple, ou d'autres équipes, qui portent une attention, puis c'est pas toutes les équipes qui font ça, mais des équipes qui portent une grande attention à l'adversaire, comment ils travaillent en désavantage numérique, bien, ils vont montrer cette séquence-là, puis ils vont dire, bien, de temps en temps, au lieu de rester sur la ligne des buts, positionne-toi en arrière, prends la rondelle et tu y vas. Alors, dans ce cas-ci, quand le joueur est en arrière de la ligne des buts, mais s'il est en arrière de la ligne des buts, ici, il ne peut pas lancer au filet. Donc, le défenseur, c'est peut-être un peu plus propice qu'il demeure en avant du filet pour couvrir la passe ici. Puis dans le cas où est-ce qu'il se dirige de l'autre côté, bien, il va pouvoir intervenir puis protéger l'enclave de ce côté-là. Donc, c'est une tendance que peut-être d'autres adversaires du Canadien, les futurs adversaires, vont observer puis vont tenter là, de peut-être là, contrecarrer de cette manière-là.
Le pire, c'est que tu l'as très bien expliqué, tu sais, quand le défenseur glisse, l'autre défenseur vient tout de suite prendre sa place pour que celui qui a glissé, quand il se relève, s'en aille au porteur opposé, tu sais, de l'autre côté. Fait que tu l'as dit, ça rouvre le chemin de l'autre côté. J'ai observé la même séquence que toi sur le jeu, puis j'ai hâte de voir comment la chose va être corrigée. Je pense que c'était Edmundson qui a pris la place de Savard. Surtout que Savard a glissé, Edmundson est venu prendre sa place, puis quand Savard se relève, ça retourne se poster devant le filet. C'est quand même, c'est pas quand même, c'est très intéressant là, que tu puisses l'imaginer, puis que les gens, lors du prochain désavantage numérique, vont pouvoir observer que est-ce que les équipes laissent glisser le défenseur du Canadien, puis au lieu d'avoir une passe qui meurt sous le bras de David Savard, s'en vont derrière pour profiter de l'ouverture. Parce que tu le dis souvent, Marc-André, puis toutes les coachs vous le dites, vous cherchez l'espace. Fait que si David Savard est couché sur la glace, puis que l'espace est de l'autre côté, puis sais-tu quoi? Là, ils font le tour puis ils l'envoient de l'autre côté. Mais le prochain coup, ça pourrait être simplement une passe sec sur la bande, sur le jaune, derrière le filet, en plein milieu du filet, qui reviendrait de l'autre côté. Tu aurais une chance béante de l'autre côté.
Oui, bien c'est le jeu un peu d'échec que les entraîneurs jouent. Donc, ils font des ajustements comme ça. Puis là, bien, visiblement, ça avait fonctionné pour le Canadien. Fait qu'hier, les Sharks se sont dit, on ne peut pas essayer de rentrer côté rapproché. On ne peut pas essayer une passe dans l'enclave. Ça ne fonctionne pas. Alors, comme tu mentionnes, Martin, où est l'espace libre? Il est l'autre côté. Alors, comment on se rend l'autre côté? Par l'arrière du filet.
Marc-André, il reste 2 minutes parce que notre ami Antonin est déjà prêt au Qatar. On va aller le retrouver. Puis je sais que tu voulais nous parler. Il te restait 2 sujets, dont Sidney Crosby. Puis tu avais une mention spéciale à la fin que j'ai pas trop compris, là, mais tu m'as envoyé ça par courriel. Donc, je te laisse aller rapidement sur Crosby, sur ton dernier sujet.
Bon, alors, Sidney Crosby, samedi soir, j'ai regardé la première période du match Pittsburgh-Toronto. Et les Leafs ont eu un bon début de match. Et dans la première présence, il y a eu une rondelle qui s'est ramassée en zone 1 du côté là, de Pittsburgh. et excuse-moi, de, du côté des Leafs. Et Mitch Marner, on le voit là, il se dirige vers le filet. Puis si on fait pause là sur la vidéo, je l'ai fait ce matin. Ben, tu sais, il y a vraiment, visiblement, tu ferais pause là, tu dirais, ben, il s'en va au banc changer là. Ça fait 35 secondes qu'il est sur la glace, 37 secondes. Mais là, il a changé d'idée. Sauf que le défenseur droit de Pittsburgh, qui était Christopher Le Temps, lui a probablement vu la même chose que tout le monde aurait pu voir, que Mitch Marner s'en allait au filet, s'en allait au banc. Et là, il s'est dirigé, Chris Le Temps, donc qui était le défenseur droitier, il s'est dirigé pour faire un changement. Sauf que Austin Matthews a saisi la rondelle à sa ligne bleue, puis a fait une courte passe à Mitch Marner, et parce que Mitch Marner a changé de route et ça a été une échappée, il a marqué. Et là, la caméra est allée au banc. Puis sur Sportsnet, ils ont mis la caméra sur Sidney Crosby. Sidney Crosby donne 3, 4, 5 bons coups de pied, coups de patin sur la bande, assez intense, vraiment de frustration, bien entendu. Et il a manqué plusieurs moments par la suite. Il rentre au vestiaire pour ce qui a été appelé une réparation d'équipement. Alors, les journalistes lui ont demandé hier...
Il a lui-même saccagé.
C'est ça. Ils ont demandé hier... Coudon, Sid, ça, c'est ton patin, c'est quelle partie d'équipement que tu as réparé? Il dit, mes patins, tu sais, c'est-tu à cause du coup de patin que tu as donné sur la bande? Puis il a juste fait un grand sourire. Là. Les journalistes de Pittsburgh ont mentionné qu'il a simplement souri là, sans vraiment répondre. Alors, c'est un leader, il a beaucoup d'influence. C'est pas tous les leaders qui peuvent faire ça, là, tu sais, choquer sur le banc en public, à domicile en plus. Mais Sidney Crosby a tellement le respect de ses coéquipiers, puis ce respect-là, il l'a bâti en termes d'années. Donc, il est respecté de ses coéquipiers, puis c'était probablement un message au banc de dire « Hey, on n'était pas prêt pour le début du match. » là. D'ailleurs, ils ont perdu le match 4-1, je crois, contre les Leafs.
T'avais un dernier petit
non,
sujet?
Non, absolument.
Oui, dernière mention, ben c'est Yannick et Martin m'ont demandé de faire une annonce ce matin. Ils m'ont envoyé un texto. Ils m'ont dit « Écoute, peux-tu confirmer qu'on va co-présider ensemble le premier festival international du Hot Chicken de Montréal 2023? » Félicitations, messieurs. Je suis vraiment, vraiment fier pour vous autres.
Je comprends pas trop, là. Faudrait t'expliquer. Je pense que Martin est tout ça abasourdi que moi, là.
Ben, je sais pas si vous autres qui m'avez demandé de faire cette mention-là, vous l'avez mis dans mes sujets, fait que je vous laisse confirmer ça.
OK, c'est bon le joueur d'auto. Moi, je pensais que tu avais un lien à faire avec ça dans ton courriel ce matin. Je pense qu'on s'est fait prendre, en tout cas, je prends la responsabilité parce que c'est moi qui ai transféré tes sujets à Martin, mais c'est bon. Je pense que tu voulais savoir si je lisais tes courriels, ben je te le confirme, je les lis, puis je les transfère à mon partner.
Ça va être un grand succès. Félicitations, messieurs.
Et la question, par exemple, c'est de savoir...
Je savais pas qu'il y avait avec des petits pois, pas de petits pois. Des petits pois, un canne, pas gelé. Et ce que j'aime beaucoup du hot chicken, bon appétit tout le monde, ce que j'aime beaucoup du hot chicken, je trouve qu'il y a beaucoup de pain. Fait que moi, j'aime mieux juste mettre la tranche du bas, je mets du blanc, je mets pas de brun, puis je mets de la sauce, puis dessus, sur le top... du poulet et de la sauce. Là, je mets mes petits pois que j'ai bien sûr égouttés avant. Des lotions, normalement. Des petits pois égouttés.
À Ongeance, on a de tout, même des capsules gastronomiques.
Ouais. Ben, on pourrait faire une capsule et appeler ça Ondine. Après Ongeance, Ondine.
Exactement.
C'est bon, on c'est bon. Mais là... Ouais, c'est ça. Là, on voyage. C'est ça qu'on va faire. On est passé de Calgary à Montréal et là, on va aller au Qatar. Et Marc-André, merci beaucoup. Très intéressant.
Salut,
encore
Bali.
Une fois. Et, c'est merci, un zéro
messieurs.
Pour toi. Tu nous as eu.
Bonne journée.
Salut, Marc.
Salut.
Pour que les gens comprennent, et je vais faire ça rapidement parce que je sais qu'Antonin est prêt, mais pour que les gens comprennent, souvent, les gars, on le parle le matin, on prépare les sujets, puis des fois, c'est par courriel. Tu sais, les gars sont occupés. Puis là, quand j'ai reçu son courriel, tu sais, je lis ses sujets, puis là, je me dis, bon, OK, il veut sûrement faire une blague. Là, je vois bien ça, là, que Yannick et Martin sont les nouveaux porte-parole du Festival international du Hot Chicken. J'ai dit, il doit vouloir faire une blague. Fait que je l'ai laissé là. Je l'ai transféré à Martin. Visiblement, tu ne m'as pas posé de questions, toi non plus. Fait que tu dois être. J'ai l'impression que tu t'es dit la même chose que moi. Puis moi, je le lance là-dessus. Bien, c'est ça. Il voulait nous pogner. Il nous a pogné. C'est 1-0 pour Marc-André. Mais la revanche sera douce. C'est sûr qu'on va leur pogner un moment
ouais,
donné.
Mais...
Je suis pas pour toi.
Je vais te dire, là, moi, je l'ai lu, mais tu as dit qu'il allait avoir une joke. Mais il n'y avait pas de punch.
C'est ça, je pensais. Non, non. C'est ça. Il voulait juste qu'on le lance là-dessus. C'est ça qu'il a fait. Il nous a eu. Alors, on s'en va. Ouais, c'est ça. Au début de l'émission, on était à Calgary. Il fait moins 28 avec le facteur éolien, mais c'est sûrement pas son cas à lui actuellement en direct du Qatar. Antonin Besnard, il a l'air à faire pas mal plus chaud, hein?
Ouais, bien ici, il fait 24 en ce moment, puis on est tout près de 21h. Donc, en après-midi, c'est autour de 30 degrés. Je m'ennuie pas du tout en ce moment de l'hiver québécois. Je pense qu'à Montréal aussi, ça commence à être froid pas mal. Là. Moi, j'ai quitté le lendemain. En fait, c'est pas vrai, la veille de la première neige au Québec. Donc, je me suis sauvé juste à temps. Là.
Ah, t'es correct. Non,
mais tu
t'es
peux revenir à toute partie. Il pleut à Sio en ce moment. Puis, je te le dis, on s'assure que ça soit fondu pour ton retour. Parlant de fondre, les espoirs du Canada sont assez fondus, merci. Le match d'aujourd'hui, quand on pensait, le Maroc avait fait match nul au premier match, on disait, bon, ben on va battre la Croatie, puis après ça, contre le Maroc, on va passer, ça va être facile. Le Maroc va être motivé parce qu'eux jouent pour un enjeu important. Et tandis que le Canada, eux, les carottes sont cuites. Est-ce qu'on sera motivé du côté de la troupe canadienne?
Ben oui, le match de demain. Hein. Oui, on nous assure que le Canada va être motivé parce que, ben écoutez, l'élimination du Canada, c'est quand même un peu logique là, dans le groupe où il se trouvait. Il était largement négligé, donc c'est pas une grosse surprise. C'est dommage que ce soit après deux matchs seulement. On aurait aimé qu'il y ait un petit enjeu où qu'on puisse y croire à la dernière rencontre. Mais quand même, on nous dit que le moral demeure bon, qu'on demeure motivé parce que il y avait plusieurs objectifs, en venant ici à Doha. Et sortir de la phase de groupe, c'était un des objectifs, mais c'était peut-être l'objectif le plus illusoire, entre guillemets. Les autres objectifs, c'était démontrer qu'on a notre place, ce que le Canada a fait contre la Belgique largement. Marquer le premier but, ce qu'Alfonso Davies a fait de superbe façon contre la Croatie. Ensuite de ça, il y avait aller chercher un premier point et aller chercher une première victoire. Donc ça, c'est encore possible. Un point contre le Maroc ou une victoire, le Canada peut y croire. C'est certain que le Maroc, en ce moment, est vraiment sur un gros high là, après sa victoire contre la Belgique 2-0 il y a quelques jours. Mais quand même, il reste beaucoup de choses à jouer pour le Canada, beaucoup de choses à gagner, des moments historiques encore à créer pour continuer de donner du rêve aux jeunes Canadiens, à la prochaine génération qui s'en vient. Donc, on nous assure qu'il y a encore une très grosse motivation en vue du match de demain.
Antonin, du côté de John Herman, on a vraiment des décisions à prendre en prévision de ce match-là. Parce que tu l'as dit, là, l'objectif, c'est d'aller chercher un premier point, peut-être une première victoire. Mais il y a aussi des gars dans cet alignement-là qui sont dans le programme national qui n'ont pas touché au terrain. Est-ce que John Herman, demain, va décider d'y aller le tout pour le tout ou essayer de récompenser tout son monde et de leur donner quelques minutes de jeu?
Oui, c'est la grande question et je pense que c'est un peu aussi son dilemme interne à John Herdman. On le sent un peu embêté quand on lui pose la question. Il ne veut pas donner de détails, évidemment, sur la composition de sa formation demain. Mais oui, c'est vrai que d'un côté, il veut y aller à fond avec les meilleurs pour aller chercher ce fameux premier point. Puis de l'autre côté, comme tu l'as dit, il y a des gars que ça fait longtemps qui sont dans le programme qui attendent. Et on pense tout de suite à un joueur comme Samuel Piette. Samuel Piette, ça fait 10 ans qu'il joue avec l'équipe nationale senior depuis qu'il est presque ado. Il a 66 matchs avec la formation canadienne. Il a toujours dit oui quand le Canada l'a appelé. Puis c'était pas toujours des matchs de Coupe du Monde ou des matchs de qualification. Là. Parfois, c'était des amicaux en Amérique centrale qui voulaient pas dire grand-chose. Ils devaient prendre du temps, si on veut, de son horaire, dire à sa conjointe, ben je suis désolé, je m'en vais quelques jours en Haïti pour jouer un match. Donc, il a toujours répondu présent. Puis là, il n'a pas encore eu deux minutes dans la Coupe du Monde. On se dit, ça serait vraiment dommage qu'il quitte Doha après avoir tellement travaillé, avoir fait tellement de sacrifices, surtout durant les deux dernières années. Là, les qualifications, c'était assez rock'n'roll. Là. C'est 20 matchs de qualification pour que le Canada s'amène ici à la Coupe du Monde. Alors, s'il quittait sans avoir touché le terrain, ça nous ferait un petit pincement au cœur, c'est certain. Puis je pense que pour lui aussi, ce serait dur à avaler. Samuel Piette, c'est un grand compétiteur. On le sait, on le connaît à Montréal. Publiquement, il va toujours dire « Je suis là pour l'équipe. Je vais faire ce qu'il faut. Si le coach a besoin de moi, je suis prêt. Sinon, je vais aider pendant les entraînements. » Mais je suis certain qu'à l'intérieur de lui-même, il est bouillant de vouloir jouer. Il a très, très hâte. Ses parents nous disaient qu'il avait très hâte de jouer. Alors, puis John Herdman, en plus, c'est un gars qui toujours va prôner la loyauté. Dans ses choix à lui, quand il amène des joueurs en sélection, parfois c'est des joueurs qui ne sont pas dans la meilleure des formes avec leur club ou qui reviennent d'une longue blessure. Mais il les rappelle quand même parce qu'il est loyal envers eux et eux ont été loyaux envers le programme. Alors, est-ce qu'il va vouloir récompenser la loyauté de gars comme Samuel Piette? Ça va être intéressant à voir demain. Mais aujourd'hui aussi, ce qu'il nous a dit, c'est que ben, il a eu déjà des discussions assez difficiles avec des joueurs. Un joueur qui, dans le programme depuis 6-7 ans, qui est carrément venu lui dire « Écoute, je sais qu'on va aller chercher un résultat, j'aimerais ça jouer, mais si tu penses que le mieux pour l'équipe, c'est de me laisser sur le banc, je comprends et je l'accepte. » Donc, l'esprit de corps, la fraternité est forte avec le Canada. Les gars vont passer par-dessus, vont faire les sacrifices nécessaires pour le meilleur du groupe. Mais nous, c'est sûr qu'en tant que Québécois, on voudrait voir Samuel Piette sur le terrain à la Coupe du Monde. Ce serait un peu comme l'aboutissement de tellement d'années de travail et d'une grande carrière pour lui quand même.
OK. Pourquoi, d'abord, la question se pose, pourquoi John Herdman n'a pas annoncé déjà sa formation pour que ces gens-là qui n'ont pas touché au terrain soient mis au courant? Puis, tu comprends-tu? Il me semble qu'il n'y a pas de danger.
Écoute.
Pourquoi c'est pas fait?
Ben, peut-être qu'à l'interne, il l'a fait. Peut-être que les gars le savent déjà. Mais vous le savez, les gars, hein? Martin Saint-Louis dit rarement son gardien partant avant le jour même. Ben, c'est la même chose au soccer. On veut pas donner d'informations privilégiées à l'entraîneur adverse. On veut le garder dans le doute, dans le mystère. Donc, c'est probablement pour ça. Mais peut-être, effectivement, qu'il y a déjà certains joueurs qui ont su, ben, à tout le moins, qu'ils n'allaient pas être sur le 11 de départ. Ensuite de ça, les changements qui sont faits en cours de match, les 5 substitutions que l'entraîneur a le droit de faire, c'est vraiment dépendamment de la physionomie de la rencontre. Par exemple, Samuel Piette, disons qu'il commence sur le banc demain et que le Canada mène 2-0. De très fortes chances qu'il entre dans le match parce que son rôle à lui, c'est de solidifier le milieu, d'empêcher l'adversaire de franchir la ligne, si on veut, la ligne centrale, le milieu de terrain. Mais si le Canada, à l'inverse, perd 1-0, doit aller chercher un but, c'est généralement pas Samuel Piette qui entre en jeu. C'est un gars comme Jonathan Osorio, quelqu'un un peu plus offensif qui peut, d'une frappe enroulée, donner le but au Canada. Donc, ça dépend vraiment en fonction du match. Il y a des joueurs qui sauront peut-être déjà qu'ils ne sont pas sur l'11 de départ, mais par la suite, ça reste à voir demain.
Parlons de l'adversaire de demain. Puis là, Non, vas-y.
Ben, si tu veux, ça va me faire plaisir. Moi, j'aime ça parler avec Antonin. C'est moi qui avais posé la dernière, fait que je pensais que dans la logistique des choses, c'était à toi, mais j'aime ça y aller. Du côté des Marocains, on les a pas insultés. Ils devraient être quand même motivés parce qu'eux autres, l'enjeu, c'est encore plus grand que de se faire insulter par l'entraîneur canadien.
Bien, c'est ça. On dit que le Canada est encore motivé. Le Maroc va être doublement motivé. Et non, ce ne sera pas à cause de John Herdman cette fois-ci. Il n'y a pas eu de « on va F le Maroc », là. On a vraiment évité cette controverse-là. Mais le Maroc, en fait, a besoin seulement d'un match nul pour assurer sa qualification au tour suivant, en huitième de finale, ce qui n'est pas arrivé depuis 1986. Donc, le Maroc aussi veut marquer l'histoire dans cette Coupe du monde. Et puis, ben, une victoire, c'est certain que ça les qualifierait également. Donc, on se méfie Canada.
Attends une seconde.
Mais quand même... Oui, vas-y.
Attends une seconde, Antonin. On sort de la télé. Dis bye à ta mère et à ma mère du Qatar.
Salut à toutes les mamans.
Good! On l'a tu Valérie, on l'a entendu. On l'a eu. Bravo, Antonin.
Ah, merci.
Vas-y,
donc, oui, je vais juste terminer. En fait, exact, c'est ça. Le Maroc a tout à perdre, au contraire du Canada. Et même si le match nul est suffisant pour assurer la qualification, parce que le Maroc pourrait aussi se qualifier dépendamment du résultat du match entre la Belgique et la Croatie, là, mais même si le match nul est suffisant, l'entraîneur nous a assuré qu'il y allait pour les 3 points.
Parlant du Maroc, c'est avec, je pense que oui, là, c'est avec les journalistes marocains que tu as vu des choses assez particulières. Puis là, on arrive dans le bout, ce que tu nous racontes, des petites affaires le fun, là, puis là, tu as vu des journalistes vraiment, mais vraiment partisans de leur équipe.
Honnêtement, on était tous mal à l'aise, les journalistes canadiens, dans la salle de conférence, après la disponibilité de l'entraîneur Walid Regragui. Honnêtement, là, 10, 15, 20 journalistes marocains se sont jetés vers l'avant, près de la scène où il y avait l'entraîneur, pour lui faire des high-fives, prendre des selfies, demander des autographes sur leur foulard. On aurait vraiment cru des partisans. Nous, on ne comprenait rien. On se disait, si on fait ça, nous, au Canada, on se fait enlever notre accréditation, c'est certain. C'était, pour nous, c'est vraiment pas professionnel. Visiblement, dans la culture là-bas, c'est complètement différent. Mais il faut savoir aussi que Regragui, c'est devenu un peu, je pense, un héros national au Maroc parce qu'il a été embauché pour diriger la formation marocaine il y a seulement 2 mois. Au mois de septembre. Et depuis, l'équipe n'a pas perdu, n'a pas encore des buts, vient de battre la Belgique 2-0 et tout près de se qualifier pour les huitièmes de finale, comme je le disais, pour une première fois depuis 1986. Donc, c'est devenu un peu comme une rock star. Et là, tout le monde veut sa photo avec lui. Même durant la période de questions, les journalistes marocains commençaient presque toujours en disant « D'abord, je veux vous remercier, je veux vous féliciter. » Donc, honnêtement, j'étais mal à l'aise, mais c'était quand même surréel de voir ça. C'était vraiment spécial. Et puis même que Regragui, bon, c'est un héros au Maroc, mais c'est rendu plus gros que ça. C'est rendu un symbole carrément de l'Afrique tout entière. C'est rendu le porte-étendard de la communauté arabe. Je pense que ça le met lui aussi un petit peu mal à l'aise. Voir ça ce matin, honnêtement, moi, j'en revenais pas puis j'en reviens pas encore, en fait, là.
Antonin, il y a ça, tu sais, des fois, on te demande une carte postale. Ça fait partie de la carte postale de parler de ces journalistes qui sont avec eux. Mais parle-nous de ton, excuse-moi l'anglicisme, de ton day-to-day, comment ça se passe là-bas, les choses qui ne sont pas habituelles pour un gars du Québec de vivre au Qatar.
Oui, ben je te dirais que ça passe vite. Les journées, puis souvent les gens me demandent « Ah, t'es allé voir tel match? » ou « J'ai pas le temps d'aller voir des matchs encore, malheureusement. » Avec les entraînements du Canada qui sont souvent en fin de soirée, on arrive à l'entraînement, disons, vers 15-16 heures. Donc moi, puis je vais vous expliquer un peu le décalage, là. Moi, les matchs ici, généralement, durant la phase de groupe, étaient à 13h, 16h, 19h, 22h. Donc, il y a toujours une heure de pause dans chacun des matchs. Si l'entraînement du Canada est à 16h, que je vais partir à 15h30, mais j'ai pas le temps d'aller voir le match à 13h parce que je vais être bien trop serré pour me rendre au centre d'entraînement. Après ça, évidemment, le match à 16h, c'est pendant l'entraînement du Canada. Les disponibilités médias avec l'équipe ont lieu autour de 19h30, donc on oublie le match de 19. Et quand j'ai terminé mes directs, mon reportage à Sport 30, parfois parler au 5 à 7, ben, je suis brûlé. Puis là, de me rendre dernière minute au match de 22h pour revenir à l'hôtel à 1h30 du matin pour presque pas dormir. Honnêtement, j'ai pas encore eu le courage de faire ça, mais j'ai très, très hâte au huitième de finale, au quart de finale. Je suis déçu que le Canada soit éliminé, mais en même temps, de mon côté, ça devrait alléger un petit peu la chose. Alors, j'espère pouvoir aller voir plus de matchs des autres équipes. J'aimerais ça voir le Brésil, voir l'Argentine, si elle se qualifie, la France, bien sûr. Mais pour l'instant, ça a été uniquement le Canada. C'est super cool parce qu'on est vraiment... On est dedans, là. On sait tout ce qui se passe. On parle aux joueurs, on connaît tous les moindres détails. Mais j'ai quand même hâte un peu d'aller voir les autres pays et de voir de quoi ça a l'air le football ailleurs sur la planète.
Bien, c'est la bonne nouvelle parce que tu restes au Qatar jusqu'à la fin de cette Coupe du monde et on aura l'occasion de te retrouver.
Jusqu'au 19 décembre.
Là, ben, c'est ça. Donc là, tu es là quasiment jusqu'à Noël. Donc, on aura l'occasion de te reparler assurément la semaine prochaine et dans l'autre pour faire un petit suivi de l'évolution. Puis tu nous raconteras des histoires. Puis là, ça va être différent parce que, comme tu dis, tu étais concentré sur l'équipe canadienne. Là, tu vas te promener un peu plus. Tu vas aller dans les stades, tu vas voir les matchs et tout ça. Ça va être intéressant de te reparler la semaine prochaine, Antonin. Un gros merci de prendre le temps de nous donner des nouvelles comme ça, malgré le décalage. C'est très apprécié.
Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir, messieurs.
Antonin, avant que tu partes, question existentielle.
Vas-y.
As-tu fait tes cadeaux de Noël?
J'ai fait ma liste, mais je ne les ai pas encore achetés. Comme je vous le disais, mon horaire est pas mal chargé, mais j'ai des idées en tête. Là. Ça s'en vient, j'attendrai pas la dernière minute, je vous le promets.
OK. Prends soin de toi, Barry.
Je pense que ton monde s'attend à avoir des cadeaux du Qatar. Donc, tu as un peu de pression. Il faut que tu les achètes avant que tu reviennes. Salut, Antonin. Bon match demain.
Salut.
Bye-bye. Antonin Besnier en direct du Qatar. Et on va le retrouver une fois la semaine prochaine et dans l'autre pour cette couverture de la Coupe du monde. Martin, allons-y à ce moment-ci avec nos 3 étoiles.
La 3e étoile, the third star de YouTube, Richard Guimont.
La 2e étoile de Second Star du RDS.ca, André Caillet.
Et la 1e étoile, The First Star, c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête à toi, bonne fête à toi. De Facebook RDS, Jérémy Veilleux. veilleux.
Bien, bonne fête, mon Jérémy. Merci beaucoup à tous nos collaborateurs aujourd'hui, François Gagnon, Marc-André Dumont et Antonin Besnard. Merci aussi à toute l'équipe de production en régie à RDS, Valérie Gautran en réalisation mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, Anouk Grignon-Langlais et l'équipe de Sport 30 dans la salle des nouvelles pour leur support. Merci à vous tous, les jaseux, de prendre le temps de jaser avec nous. Et on vous donne rendez-vous demain. Demain, trois invités à nouveau, Marc Denis en direct de Calgary, Guy Boucher sera là également et on va retrouver Sidney Foyot qui, lui, sera avec nous aux alentours de 12h45. Le Canada joue à 10h demain matin, donc Ongeance va débuter par la suite et Sidney viendra nous faire un compte-rendu du match du Canada face au Maroc.
Parfait. Yann, un gros merci à toi. Merci à tous les gens dans la régie. Demain, je mettrai mon chandail du Canada pour la dernière fois. Merci à Val, merci à toi. Merci surtout aux jaseux. Et le match de demain, en plus, est à 10h. Fait que si vous avez des heures de sommeil à mettre en main, c'est à soir qu'il faut faire ça. Ouais. Donc, salutations à vos mères, à vos enfants. Prenez soin de vous autres, on se parle demain.